Je regardai et parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. On parle souvent des chevaliers de l'Apocalypse, mais ce serait quelque part plus juste de parler des chevaux et des chevaliers. Hein, parce qu'on parle déjà des chevaux et ensuite ceux qui sont dessus. Et on a donc dans l'ouverture des six premiers sceaux, on a quatre chevaliers. On va peut-être continuer puis on reviendra sur ce cheval blanc. Verset 3, il est dit « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. » C'est pas très gai tout ça. Hein. Verset 5. « Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Viens », qui disait, pardon, « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être qui disait « Viens ». Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre, pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts, le Hadès, l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. On a quatre êtres vivants autour du trône, et les quatre êtres vivants disent « Viens ». Et appelle quelque part ces quatre chevaux montés d'un cavalier. On voit que pour les trois derniers chevaux, il y a des phénomènes, des actions qui sont terribles, catastrophiques et sévères. La question déjà, c'est est-ce que les événements là, concernant les sceaux, que ce soit les quatre premiers sceaux, ensuite, on en a deux autres. Est-ce que ce sont des événements qui sont successifs, simultanés? Est-ce que ce sont des événements qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu? Et on réalise que dans l'Apocalypse, ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses concernant la chronologie. Est-ce que c'est déjà le premier cheval, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, ensuite le quatrième? Ou est-ce que ça se pourrait qu'il y ait du chevauchement, ça tombe bien avec nos chevaux, là, du chevauchement entre ces différentes étapes et que le deuxième saut débute peut-être pas forcément à la fin du premier, mais qu'au milieu du premier, il y ait le deuxième saut et puis le troisième, et puis peut-être que ça se superpose et que ça corresponde plus. Il y a quelqu'un qui disait là, dans l'Apocalypse, c'est peut-être plus quatre tableaux, enfin six ici, hein, concernant les six premiers sceaux, qu'on a comme si Jean avait quatre visions, enfin, ou six, quatre cavaliers puis les deux autres sceaux, avaient six visions de l'ouverture de ces six premiers sceaux, mais ça ne veut pas forcément dire que chronologiquement parlant, c'est le premier, ensuite le deuxième, et pour qu'il y ait le troisième, il faut que les deux premiers soient accomplis. Un peu comme quand on visite un musée où on pourrait voir différents tableaux. Eh bien, Jean voit le premier, ensuite le deuxième, ensuite le troisième. Donc, la chronologie ou l'ordre, c'est par rapport à ce qu'il voit, mais que dans les faits et la réalité, eh bien, c'est pas forcément dans cet ordre-là. Ou c'est pas forcément l'un qui vient après l'autre, mais qu'il peut y avoir une superposition. C'est vrai pour les sceaux du chapitre 6, mais ce sera vrai aussi pour les trompettes et pour les coupes, où ça devient trop réducteur et on voit qu'on ne peut pas dire « bon, ben c'est déjà ça, après ça ». Parce que sinon, on va dire « bon, avant qu'il y ait les trompettes, il faut qu'il y ait les sceaux. avant qu'il y ait les coupes de la colère de Dieu, il faut qu'il y ait les trompettes. Puis quand on commence à regarder le contenu des sceaux, des trompettes et des coupes de la colère de Dieu, on s'aperçoit que ce n'est pas les sept premiers, ensuite les sept suivants, ensuite les sept suivants, et qu'il n'y a pas forcément une succession comme ça de tout l'un à la suite de l'autre, mais qu'il y a certainement un recoupement entre l'un et l'autre. Donc, les quatre cavaliers peuvent aussi partir en même temps. Comprenez que quand le premier cavalier est parti, le deuxième peut partir pendant que le premier est en train de galoper. Vous me suivez? Et que l'effet du deuxième peut avoir lieu en même temps que l'effet du troisième. Que ce n'est pas forcément quand il y a le troisième cavalier, tout ce qui était dit avec le premier ou avec le deuxième compte plus parce qu'on est rendu au troisième. Ou quand on est rendu au quatrième, les autres c'est fini. Les autres c'est pas forcément fini, mais ça peut continuer, même s'il y a ici comme un ordre. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit par rapport au chapitre 4 et au chapitre 5, quand il y a eu cette vision du trône de Dieu, on a vu que Jean n'avait pas une vision, comment dire, il ne voyait pas quelque chose de nouveau par rapport au trône de Dieu, mais que ça ressemblait déjà à ce qu'on avait pu lire dans Ézéchiel, et que ça ressemblait déjà à ce qu'on avait pu lire dans Ésaïe. Et que ces quatre êtres vivants, avec leur face, eh bien, qu'on parle de l'aigle, qu'on parle du lion, qu'on parle du bœuf, ou qu'on parle d'une face d'homme, eh bien, ces quatre êtres vivants avec ces quatre faces bien distinctes rappellent, eh bien, les êtres qu'on avait dans Ézéchiel, où ils avaient quatre faces et c'était les mêmes. Ou quand dans Ésaïe, chapitre 6, on a cette vision du trône de Dieu avec le pan de la robe qui couvre le trône et ces anges, ces êtres célestes qui avaient trois paires d'ailes, deux pour voler, deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les pieds, rappelle ce qu'on a pu voir dans la vision du trône du chapitre 4. Mais ici, avec les cavaliers, c'est la même chose. Ces cavaliers de l'Apocalypse ne sont pas des images nouvelles, bibliquement parlant. Vous avez déjà lu ça quelque part dans la Bible. Et vous dites, ah oui, c'est vrai, je me souviens maintenant. Non? Oui, presque. Zacharie, ça vous dit quelque chose? Vous avez lu Zacharie? Est-ce que vous avez lu Zacharie? Et quand vous avez lu Zacharie, est-ce que vous avez connecté ça avec l'Apocalypse? Vous avez dit, hey, on dirait les cavaliers de l'Apocalypse. Zacharie, chapitre 1er, verset 8. Zacharie 1, 8. Vous l'avez? Je regardais pendant la nuit et voici un homme était monté sur un cheval roux. Ça me rappelle quelque chose, ça. Et se tenait parmi les myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Donc on voit, et je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur, ainsi de suite. On voit ici une vision de chevaux de différentes couleurs, roux, blancs, et puis fauves, et puis des cavaliers qui sont dessus. On retrouve le même principe dans l'Apocalypse, avec des chevaux de différentes couleurs et des cavaliers dessus. Et un peu plus loin dans Zacharie, chapitre 6, verset 1er, on retrouve aussi cela. Zacharie, chapitre 6, verset 1er, voilà ce qui est dit. « Je levai de nouveau les yeux et je regardais, voici quatre chars sortaient d'entre deux montagnes et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. » Et pour l'instant, on a les mêmes couleurs que dans l'Apocalypse. « Et au quatrième char, des chevaux tachetés rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui me parlait, « Qu'est-ce mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les quatre vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. » Et dans l'Apocalypse, eh bien, on voit que c'est les quatre êtres vivants qui appellent, eh bien, ces cavaliers en disant « Viens !» Et ces quatre êtres vivants qui sont devant le trône de Dieu. Et verset 6, « Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigeaient vers le pays du septentrion, et les blancs vont après eux, les tachetés se dirigent au pays du midi, les rouges sortent, et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, allez parcourir la terre, et ils parcoururent la terre. Il m'appela et il me dit, voici ceux qui se dirigent vers le pays du Septentrion font reposer ma colère sur le pays du Septentrion. Et on voit ici que ces chevaux qui partent dans la prophétie de Zacharie, eh bien, représentent la colère de Dieu qui va s'abattre sur le Septentrion. Donc on voit quelque chose qui n'est pas nouveau dans l'Apocalypse. On retrouve un peu ce même vocabulaire, ce même langage de chevaux qui partent et qui représentent quelque part une colère ou quelque chose quand même d'assez négatif. On va dire ça comme ça. Maintenant, une question se pose par rapport au cheval blanc. C'est le premier. Parce que si pour le cheval roux, le cheval noir ou le cheval pâle ou verdâtre, eh bien, c'est franchement très négatif tout ce qui va se passer avec ces trois chevaux. En ce qui concerne le cheval blanc, il y a deux façons de voir les choses. Et il faut reconnaître que c'est un point assez difficile, même très difficile. Depuis le deuxième siècle, c'est-à-dire très tôt, lors de la lecture de l'Apocalypse, déjà Irénée, un des pères de l'Église, eh bien, pouvait noter la difficulté par rapport à comprendre ce cheval blanc. Et durant des siècles et des siècles, et jusqu'à aujourd'hui encore, eh bien, les lecteurs de l'Apocalypse se divisent entre ceux qui vont dire « Non, non, ce cheval blanc, c'est positif », et d'autres vont dire « Ce cheval blanc, c'est négatif ». Alors, qu'est-ce qu'on entend par positif ou négatif? Certains vont dire ben, « Ce cheval blanc, avec le cavalier qui est dessus, c'est Jésus ». Et c'est Jésus qui sort, il partit en vainqueur pour vaincre, et une couronne lui est donnée. Et il a un cheval blanc. Et le blanc est une couleur qui est associée à Jésus depuis le début de l'Apocalypse. Il avait les cheveux blancs et on voit beaucoup cette association d'idées entre le blanc et cet agneau immolé et donc tout ce qui représente Jésus. Et évidemment, il y en a qui vont connecter ça avec Apocalypse 19, 11, et je suis sûr que vous l'aviez déjà fait dans votre tête. Apocalypse 19, 11, voilà ce qui est écrit. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, ainsi de suite. Et enfin, on va quand même aller au verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est assez clair. Ici, le cavalier qui est sur le cheval blanc de Apocalypse, chapitre 19, verset 11, c'est Jésus. Alors, en connectant Apocalypse 19, 11, eh bien, certains vont lire Apocalypse 6, 2 comme étant eh bien, Jésus en disant ici, le premier cheval blanc qui sort, c'est le même qu'on retrouve dans l'Apocalypse chapitre 19, et donc son cavalier, c'est forcément Jésus. Je ne sais pas si vous achetez cette interprétation. Ça semble avoir de l'allure. D'autres vont dire, oui, mais là, si Jésus sort dès le départ, pourquoi après il y a toutes les catastrophes, tous les drames, et puis c'est quoi tous les autres sauts? Si Jésus sort en vainqueur et vaincre, on ne voit pas trop comment se déroule cette victoire-là avec tous les autres cavaliers et tout ce qui va se dérouler après l'ouverture des autres sceaux. Alors certains vont mettre comme une variante, mais tout en restant dans un langage positif, en se souvenant que dans Apocalypse 19, 11, celui qui est sur le cheval, son nom est la parole de Dieu, et vont dire donc, ici, ce cavalier, eh bien, ça représente l'évangile. C'est l'évangile, la proclamation de l'évangile, où, eh bien, vous comprenez que c'est pas donc un sceau qui va s'ouvrir dans les siècles ou dans les années ou dans les mois à venir, mais que ça a déjà été ouvert. Et que quelque part, cet évangile est proclamé. Et on connecte ça, par exemple, à Marc 13-10. Marc 13-10, hein, un passage qu'on cite souvent quand on parle de mission. Marc chapitre 13, verset 10, où il est dit « Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. » Et dans un contexte eschatologique, dans un contexte où Jésus parle de la fin des temps, il dit « Avant qu'arrivent tous ces événements de la fin des temps, la première étape, c'est que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. » Et dans ce sens-là, ce cheval blanc et le cavalier sur ce cheval blanc qui sort pour vaincre pourrait être donc la proclamation de l'évangile, qui est donc la première étape dans l'ouverture eh bien, des sceaux de ce livre-là. Il faut, avant que les autres événements de la fin des temps eh bien, ne soient, eh bien, que l'évangile, la bonne nouvelle, soit prêchée à toutes les nations. Et donc ce serait ce cheval blanc qui sort comme étant l'image, le symbole, la représentation de la proclamation de l'évangile. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait deux camps. Il y en a qui pensent que c'est positif, donc Jésus ou la parole. Il y en a d'autres qui vont dire non, non. On voit que les trois autres cavaliers sont négatifs. Il n'y a aucune raison que le premier soit positif. Et donc, on va considérer que le premier est aussi négatif. C'est-à-dire, oui, mais il est négatif, mais il ressemble quand même pas mal au cheval blanc de Apocalypse. Oui, justement, parce que c'est du faux, c'est du fake, c'est le faux prophète, ou c'est la mauvaise doctrine, ou c'est la fausse religion. Et parmi ceux qui vont dire ces choses, il y a quelqu'un que vous connaissez certainement, c'est un dénommé Billy Graham. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà entendu parler de lui? Il a écrit un livre sur les chevaliers de l'Apocalypse. Donc, il a pris le temps de développer tout ça. Et il va dire, justement, le premier cheval et le premier cavalier de l'Apocalypse, comme les autres cavaliers sont négatifs, le premier l'est aussi, mais il prend l'apparence eh bien, de quelque chose de bon qui ressemble à Jésus, mais ça reste un cavalier de l'Apocalypse au même titre que les autres, à savoir nuisible et négatif. Parce que c'est ce qu'on voit par rapport aux autres cavaliers, quand il est dit concernant... Parce que concernant le cheval blanc, on n'a pas grand-chose comme indice, hein, je veux dire d'ailleurs un peu pour tous, on a juste quelques mots, hein, c'est pas très précis, puisqu'il est dit... Je reviens à 6:2. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. On a une couronne, il part en vainqueur et pour vaincre. Pour l'instant, tout a l'air positif, à part l'arc. Et là, quelqu'un va dire, l'arc, eh bien, rappelle ce qu'on avait dans l'Ancien Testament. En l'occurrence, Ézéchiel, chapitre 5, verset 16. Vous voyez que dans l'Apocalypse, on a beaucoup de références aux autres prophéties de l'Ancien Testament. Et regardez ce qui se passe dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 16. Vous avez trouvé, vous, ça va vite, hein, ça s'affiche, ok. Ézéchiel 5, 16, il est dit, « Quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine, qui donneront la mort, et que j'enverrai pour vous détruire, j'ajouterai la famine à vos maux, je briserai pour vous le bâton du pain. » Et on voit qu'ici, il y a, et le verset 17 a le même vocabulaire, la famine, les bêtes féroces, la peste, le sang passeront au milieu de toi. Et ça, c'est les flèches qui sont décochées de la part, et il dit, c'est moi l'Éternel qui parle. Alors, dans ce sens-là, on va dire ben, ce cheval blanc et le cavalier qui est dessus a des flèches qui restent des flèches de la colère de Dieu, si on peut dire les choses ainsi. Alors, ça c'est le premier cheval. Si on arrive au deuxième, puis après on fera un résumé sur les quatre. Deuxième cheval, quand il ouvre le second sceau, il entend le second être vivant qui disait « Viens », et un autre cheval roux, cette fois-ci, est sorti. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. C'est tout ce qu'on sait. On ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'ici, eh bien, quand ce cavalier sort sur sa monture rousse, pardon, eh bien, la paix est enlevée de la surface de la terre. Le troisième sceau, eh bien, c'est un cheval noir. Celui qui le montait avait une balance dans la main et il dit « Une mesure de blé pour un denier, une mesure d'orge ». Ça veut dire quoi ça? Eh bien, ça fait référence donc au prix des aliments, c'est-à-dire directement connecté à la famine. Donc ici, on est en train de parler de famine. Et dans le quatrième cheval, eh bien, celui qui le montait se nommait la mort. Et il y en a qui vont dire, mais ça rappelle exactement ce que Jésus avait dit dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Vous vous souvenez de Matthieu, chapitre 24? Jésus parle de la fin des temps. Et quand Jésus parle de la fin des temps, dans Matthieu, chapitre 24, il utilise le même vocabulaire que l'on retrouve avec les quatre chevaliers de l'Apocalypse. Matthieu, chapitre 24, où le premier sceau, par exemple, parle de guerre et de menaces de guerre, une nation contre une nation. Hein, c'est ce qu'on a dans Matthieu 24. Vous avez trouvé Matthieu 24? Donc, quand Jésus parle ici au verset 7, c'est ça? Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Donc, c'est les guerres et les menaces de guerre. Ça c'est le deuxième saut. Une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Et puis, le bruit de guerre, c'est verset 6. Ça, c'est le premier saut. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc le premier sceau, ce n'est pas encore la fin, c'est juste les bruits de guerre. Et avec le deuxième sceau, eh bien, c'est une nation contre une autre nation. Le troisième sceau correspond aux famines, eh bien, que l'on trouve au verset 7 encore. Il y aura des famines. Donc le verset qui correspond au troisième sceau. Et le quatrième sceau, eh bien, parle de tremblement de terre. Eh bien, ça, ce serait le quatrième sceau ici qui ferait référence au tremblement de terre. Et si on continue, si on va plus loin que les cavaliers, on a le cinquième sceau et on a le sixième sceau. Je saute directement au sixième, on va revenir au cinquième tout à l'heure. Mais je saute directement au sixième sceau, donc au verset 12. Apocalypse 6, 12, je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de train, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent de la terre comme des figues vertes d'un figuier secoué par le vent. Et ce vocabulaire-là, eh bien, c'est celui qu'on retrouve dans Matthieu 24, 19, où on a le même genre de vocabulaire, les mêmes événements quelque part qui sont relatés, Matthieu 24, 19, où c'est dit, où c'est écrit ainsi, « Malheur aux femmes qui seront enceintes, pourquoi j'ai dit 19 ?» Matthieu 24, 19, c'est pour ça que j'ai noté. La détresse sera si grande, il s'élèvera de faux prophètes, je pense. Voilà, au 29, j'ai mis 19, mais c'est 29. Il y aura, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. On retrouve ici les mêmes mots, le même vocabulaire, que ce qu'il y avait, que ce qui est défini dans l'Apocalypse au sixième sceau. Alors, le premier cheval, le deuxième enlève la paix sur la terre, le troisième parle de famine, le quatrième, là on a le nom du cavalier, Le cavalier s'appelle la mort. Et celui qui l'accompagne, c'est le séjour des morts. Donc c'est le seul cavalier qui a un nom ici. Et on comprend que son nom, c'est un nom terrible. C'est la mort, le séjour des morts. Et même, le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre. Donc on comprend que c'est la mort qui va faire du ravage, puisque 25% de la population, quelque part, sera atteint par la mort ici, dans cette occasion-là. Alors pourquoi le quart? Mais déjà, ça montre qu'il n'a pas le contrôle sur tout et qu'il est limité dans son pouvoir. Et ce qu'il faut noter par rapport aux quatre cavaliers de l'Apocalypse, c'est qu'ils sont envoyés quelque part par les quatre êtres vivants qui sont autour du trône. Et ça nous dit quoi aujourd'hui? Ça nous dit que les événements, que ce soit les famines, les tremblements de terre, que ce soit les guerres, les bruits de guerre, les nations contre les nations, ne sont pas des événements qui arrivent comme ça par hasard, mais qui restent sous le contrôle du trône de Dieu. Et qu'ici, quand il y a « viens, viens, viens et viens », hein, puisque à quatre fois on dit « viens » aux cavaliers qui sortent ici, eh bien, on insiste sur la souveraineté de Dieu, et donc il est celui qui garde le contrôle. Et que les événements qui se produisent ne sont pas des événements qui sortent du contrôle de Dieu. Maintenant, il faut se souvenir qu'à l'époque où Jean écrit l'Apocalypse, et que les premiers lecteurs qui vont lire l'Apocalypse ne se disent pas « Ah, ben ça, c'est ce qui va se passer plus tard ». Ils ne disent pas « Ah, ben ça, c'est ce qui va arriver en 2015 ». Ou 2014, ou le 12 décembre 2012, où ils ne sont pas là en disant « c'est quelque chose qui arrive plus tard ». Les premiers lecteurs de l'Apocalypse, les premières personnes qui ont lu ce que Jean a écrit dans ce livre, avaient la conviction qu'ils étaient en train de vivre ce qui était écrit. Et que ce n'était pas les choses à venir qui étaient racontées, mais bien les choses présentes. Et ils avaient cette conviction que le cheval blanc était déjà sorti et que le cheval roux était déjà sorti, que celui qui avait le pouvoir d'enlever la paix de la terre est déjà sorti et que les hommes s'égorgent les uns les autres. Est-ce que ça, ce cheval est en train de courir encore aujourd'hui? Ou est-ce que la paix est revenue sur la terre? Ou non, celui qui est venu enlever la paix de la terre n'est jamais sorti. Regardez comme on est en paix et que tout le monde s'aime. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit. Non, ce cavalier est certainement déjà sorti. De la même manière, eh bien, ce cheval noir, où il est question de famine, et puis ce cheval verdâtre, où il est question de mort et de mortalité, de maladie, eh bien que toutes ces plaies, quelque part, pour les premiers lecteurs de l'Apocalypse, c'est des choses qui se sont déjà déroulées, même si pour nous, aujourd'hui, eh bien, on considère qu'on est toujours dans ce mode-là. Et que c'est à la fois, et c'est ça une subtilité de l'Apocalypse, on aura certainement le temps de développer ça plus en détail dans d'autres, quand on parlera par exemple de la bête ou de choses comme ça un peu plus tard. Une des subtilités de l'Apocalypse, c'est que le texte est comme à plusieurs dimensions et peut être lu à différentes époques et être vrai pour différentes époques. C'est-à-dire qu'il soit à la fois vrai au temps des Romains où les chrétiens sont persécutés, mis à mort, où on les brûle, où on les met dans des fosses aux lions, où il y a toutes sortes là de persécutions qui est donnée contre les chrétiens, mais qui est vrai aussi aujourd'hui, où on vit toujours dans ce monde où eh bien, la paix a été enlevée, où il y a encore des famines, de la mortalité. Vous savez, des fois, on a l'impression que tout va bien parce qu'on vit au Québec, mais il y a énormément, je ne sais plus les chiffres exacts, Je les ai lus, puis j'aurais dû les noter, parce que vous sortir ça de mémoire, vous allez les retrouver sur Internet, mais allez essayer de voir combien de nouveau-nés meurent par jour, ou par semaine, ou par année, sur la surface de la Terre. Combien de personnes meurent de la faim aujourd'hui encore, en 2014? Combien la famine, et c'est pas parce qu'on parle le pas de la famine qu'il n'y en a pas. Des fois, les médias préfèrent parler des Canadiens de Montréal, mais il y a des gens qui meurent de faim aujourd'hui encore. Mais c'est plus populaire. On en parle un petit peu quand il y a quelque chose de spécial, mais il y a des gens qui meurent de faim aujourd'hui encore. Au niveau des conflits et des guerres, on parle de certains conflits, de certaines guerres, mais ça continue. En Syrie, ils sont toujours en guerre. Boko Haram, au Nigeria, est toujours en guerre et contre les chrétiens aussi. Et puis, l'État islamique est toujours en guerre. Et on a donc toujours ces guerres qui sont là actuellement, et ces bruits de guerre, et puis ces hommes qui s'égorgent des nations contre des nations. Et quelque part, bien, ces chevaux qui courent et ces cavaliers qui sont là sont toujours eh bien, à l'œuvre aujourd'hui. Mais le point que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que ce n'est pas des chevaux qui partent de n'importe où, puisque ce sont les quatre êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu qui disent viens. Et que quelque part, Dieu reste en contrôle. Et qu'il a toujours la maîtrise de ces événements-là. Que ce n'est pas des attaques qui viennent contre le royaume de Dieu et que Dieu ne maîtrise pas, mais c'est les quatre êtres vivants, et ça a toute son importance ici, qui disent viens. Quelque part, qui appellent ces choses. Quand on dit viens, c'est qu'on les appelle, qui les réclame, qui les demande, parce que c'est dans le plan de Dieu, eh bien que d'amener une certaine repentance au travers de ces événements. Et c'est quelque chose qu'on va développer aussi tout au long de l'Apocalypse. On va voir que s'il y a de la souffrance, que s'il y a des moments difficiles, c'est pas pour faire mal, blesser pour blesser d'une manière méchante, mais que cette douleur et que cette souffrance a un but de rédemption. Et que cette souffrance doit amener une repentance, une transformation, un changement et amener une rédemption, un retour vers Dieu. C'est un principe qu'on voit dans l'Ancien Testament très souvent. En l'occurrence, on en a parlé avec Gédéon, puis on en a parlé avec Samuel ce matin, et dans le livre des Juges, par exemple, on voit un petit peu ce pattern, ce schéma qui revient, qui est récurrent, le peuple s'éloigne de Dieu et puis n'écoute plus Dieu, va suivre des Baals, des Astartés, des faux dieux. Dieu envoie contre Israël des ennemis, que ce soit des Madianites, que ce soit des Philistins, que ce soit une famine, que ce soit des choses. Moralité, le peuple étant oppressé et puis sous eh bien, la souffrance à cause des armées qui les attaquent, le peuple crie à Dieu, revient à Dieu, se repent de ses mauvaises voies. Dieu suscite un libérateur, un juge qui vient donner la victoire sur les ennemis. Et tout va bien. Jusqu'au jour où le peuple oublie à nouveau et se détourne de Dieu, et Dieu renvoie comme une persécution pour les réveiller. C'est un peu le principe du coup de coude que vous pouvez recevoir quand vous vous endormez. Ça fait mal, mais ça réveille. Et là, c'est un petit peu ça. Et l'Apocalypse a ce but-là. Les temps difficiles dans l'Apocalypse, particulièrement pas en ce qui concerne l'Église, n'ont pas pour but, et puis on l'a vu par rapport aux épîtres, hein, aux sept épîtres de l'Apocalypse, où on avait toujours ce leitmotiv à moins que tu ne te repentes et que toutes les choses qui étaient annoncées avaient pour but d'amener à la repentance et que la repentance amenait un changement radical et que l'issue, la fin de l'histoire est différente alors. Alors si ces chevaux de l'Apocalypse sortent, c'est pas pour détruire, mais c'est pour qu'au travers de ces fléaux, qu'au travers de ces plaies, qu'au travers de ces difficultés, eh bien, il y ait une rédemption, un retour à Dieu. Je reprends le verset 9, puisque les quatre premiers sauts, c'est donc les quatre premiers chevaux. Et le verset 9, on ne l'a pas lu encore. « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. » Et on comprend qu'à l'époque de Jean, ceux qui lisent ce texte ne se disent pas « c'est ceux qui vont mourir plus tard ». C'est leurs cousins, c'est leurs tantes, c'est leurs frères, c'est leurs sœurs qui sont morts à cause du témoignage. Parce qu'ils étaient chrétiens, ils ont été mis à mort par les Romains et par les païens et qui les ont mis à mort à cause de leur foi. Eh bien, ils voient ceux donc, qui ont été mis à mort à cause de leur foi. Verset 10, « Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand ?» Et ça, c'est un terme qu'on retrouve souvent dans les psaumes. « Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ?» Donc, on attend une intervention. « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. » Et le quelque temps encore montre qu'il y a des choses qui doivent s'accomplir, qu'on n'est pas encore arrivé à la fin, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et vous dites, j'espère que j'en ferai partie. Non ? Et pourquoi pas ? Vous ne voulez pas faire partie de leurs compagnons de service et de leurs frères ? Donc, j'insiste sur le fait que les premiers lecteurs de l'Apocalypse, pour eux, c'était clair, c'était les gens qui étaient autour d'eux. Et donc, aujourd'hui, lorsque nous lisons ça, on ne peut pas faire référence à des choses à venir seulement. Oui, ça concerne des choses qui vont peut-être se produire dans quelques mois, dans quelques années, peut-être, mais ça s'est déjà produit. Et ça se produit aujourd'hui encore. Hein, je rappelle, et on l'avait fait quand on avait parlé de l'Église persécutée, puis l'enregistrement est sur Internet aussi, mais de dire qu'il y a des pays aujourd'hui où les Églises sont persécutées, où on est mis à mort lorsqu'on est chrétien. Et ils viennent quelque part alimenter le nombre de ceux qui sont ici. Donc ce cinquième sceau n'est pas un sceau qui va s'ouvrir, mais qui s'est déjà ouvert. Et on a trop souvent tendance à lire l'Apocalypse comme étant les choses à venir, mais on est déjà dans les choses à venir. Et on le voit que le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et là le cinquième sceau, correspondent déjà à notre réalité. Et le sixième sceau, verset 12, « Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, il eut un grand tremblement de terre, le soleil devient noir comme un sac de crin, la lune entière devient comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre et les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous, ça ressemble à ce que Jésus disait dans Matthieu 24 là encore, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Et là quelque part ça paraît. Imaginez un agneau en colère. Ça, quelle tête, un agneau en colère. Vous voyez un agneau, vous dites, ouh, il me fait peur, il a l'air en colère. Vous imaginez un agneau en colère? Non? S'il fallait dessiner un agneau en colère, on va dire, mais un agneau, c'est gentil. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut voir un agneau en colère? Et on comprend que là, il y a quelque chose de spécial qui se passe ici. Jésus, évidemment, c'est l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Et on comprend que c'était ce qui était dit, comment dire, la fin du chapitre fait écho au début du chapitre, puisqu'il était dit au verset 1er, chapitre 6, verset 1er, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux. » Et il n'est pas dit le premier seau, il dit un des sept seaux, hein, comme si l'ordre avait moins d'importance que ce que nous, on aimerait leur donner. Eh bien, c'est l'agneau qui ouvre un des sept seaux, et là encore, c'est la colère de l'agneau dont il est question ici. Donc on comprend que ces sceaux sont connectés à la colère de Dieu et celle de l'agneau. Est-ce que ce sixième sceau a déjà eu lieu? Là, c'est possible que non. Hein. Ça semblerait quand même être assez catastrophique, ce qui est décrit là-dedans, et même mondial. Et, il est question de toutes les catégories sociales, hein, puisqu'il y a les chefs militaires, les riches, les puissants, les esclaves, les hommes libres. On voit qu'on détermine un petit peu toute la société qui est là. Et puis, on a toutes sortes d'événements qui se produisent, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, des tremblements de terre. Alors, est-ce que certains vont dire, bon, ben, c'est peut-être quelque chose là de cataclysmique, cataclysmique qui doit se produire, ou de terrible hein, qui doit arriver. Ou alors, on pourrait dire aussi, mais on y est déjà un peu quand même. Hein. Quand on voit un tsunami qui arrive et qui ravage toute une région, quand on voit, je veux dire, des inondations, quand on voit on vit encore un peu ces choses-là. Et alors peut-être que c'est juste l'annonce et puis que ça va aller comme crescendo, arriver à un moment donné où on va se cacher et puis arriver à préférer eh bien mourir et que les montagnes tombent sur nous et nous cachent de toutes ces catastrophes. On voit que ce cinquième saut eh bien amène comme une amplification. Il y a comme une amplification entre le premier saut jusqu'au cinquième, que ça va de pire en pire, si je peux dire les choses ainsi. Et quand on regarde la société dans laquelle on est, eh bien, je ne sais pas quel constat vous faites, mais on pourrait peut-être faire le même constat en disant, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça aille mieux qu'il y a 100 ans, ou qu'il y a 200 ans. Mais c'est comme si ça va de pire en pire. En termes de famine, en termes d'épidémie, en termes d'Ebola, de peste, en termes de toutes sortes de catastrophes, de tremblements de terre, de volcans. Est-ce que ça va en s'arrangeant? Je pense qu'il faudrait ouvrir les yeux et se rendre compte qu'on est dans ce mode dont il est question dans Apocalypse chapitre 6, de cataclysmes qui vont en s'empirant et qui n'arrivent pas par hasard. Mais c'est les quatre êtres vivants qui sont autour du trône qui disent « Viens » pour les quatre premiers. Et ensuite, il y a l'agneau qui ouvre ses sceaux. Et ses sceaux correspondent à la colère de Dieu. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que en Jésus, nous échappons à la colère de Dieu. Et dans ce cinquième sceau, lorsqu'il est question de ceux qui sont morts, eh bien, ils avaient une robe blanche et il leur fut donné de se tenir en repos. Et on voit le contraste qu'il y a entre tous ces événements catastrophiques qui manifestent la colère de Dieu et ceux qui sont en repos. Et en Jésus, il y a le repos de Dieu. Et je vous rappelle que l'Apocalypse doit être lu comme un livre d'espoir. Et la bonne nouvelle qu'on peut lire, même au travers de ce chapitre 6, qui nous montre qu'il y a une amplification de catastrophes, eh bien, c'est que si nous sommes en lui, si nous faisons partie eh bien, de ceux qui ont cette robe blanche qui a été donnée parce qu'on a rendu témoignage et qu'on est, comme Jésus est appelé, témoin fidèle, mais que nous aussi, nous sommes témoins fidèles, eh bien, il y a un repos qui nous attend. Et on n'est pas dans ce mode d'angoisse et de terreur de ceux qui se cachent dans les cavernes, mais on est plutôt, on échappe quelque part à cela. Ces catastrophes, cette colère qui s'abat a pour but eh bien, d'amener chacun à se repentir et à changer de voie. Et ça a toujours été comme ça dans toute la Bible, et ça l'est davantage encore dans l'Apocalypse. Alors, c'est ce qu'on pouvait dire par rapport à l'ouverture des cinq premiers sceaux, et vous allez voir qu'assez souvent, concernant des six premiers sceaux, pardon, et vous allez voir concernant les sept, que ce soit les sept sceaux, les sept trompettes ou les sept coupes, ça marche souvent par six plus un. Et là, c'est pareil. On a les six premiers sceaux, il va se passer autre chose, et après, on parle du septième sceau. Et dimanche prochain, on sera donc avec Apocalypse chapitre 7, et on commencera et on finira avec le septième sceau dans le chapitre 8. Et il est question des 144 000 et puis de cette grande tribulation. Alors ça, c'est peut-être un passage qui est très connu, peut-être par les témoins de Jéhovah aussi, mais par nous aussi, on veut être sûr de bien comprendre ce qui est écrit là-dedans. Mais ça, on en parlera dimanche prochain. Évidemment, tous les enseignements sont aussi sur Internet.